Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Le problème de Walata, il dit c'est un point rouge, c'est dangereux. C'est pas vrai. Walata, c'est une place très magnifique et beaucoup de choses à voir. Et tu peux circuler seul. S'il n'y a pas de point rouge, le touriste vient. Et on a besoin de touristes.
RFI, grand reportage.
Comme cet aubergiste, Walata se languit de ses visiteurs. À la fin des années 2000, l'ancienne cité caravanière aux confins du sud-est mauritanien a été classée zone rouge, c'est-à-dire avec risque terroriste élevé. Depuis, rares sont les touristes à venir se perdre dans ces ruelles ensablées. Certes, le Mali et sa violence endémique ne se trouvent qu'à une centaine de kilomètres de là, mais la Mauritanie n'a pas connu d'actes terroristes depuis plus de 10 ans. Et si certaines régions, comme l'Adrar, au centre du pays, sont passées en zone orange, la cité reste, elle, marquée rouge, abandonnée à son sort. Victime collatérale de la lutte antiterroriste, Walata rêve de sortir de l'oubli. C'est un grand reportage de Mounia Daoudi.
Salam alaikum.
C'est sans aucun doute la plus inaccessible des villes anciennes de Mauritanie, inscrite depuis plus d'un quart de siècle au patrimoine mondial de l'UNESCO. 1180 km et 2 jours de voyage éprouvant depuis la capitale Nouakchott, des heures de piste dans un paysage monotone avant de déboucher sur cette fameuse passe de Knou, d'où l'ancienne cité caravanière se dévoile depuis maintenant 14 siècles au regard émerveillé du voyageur. Du vent, du sable et une terre ocre à perte de vue. Seule concession au monde contemporain, une route goudronnée qui descend dans la vallée jusqu'au rivage de l'éternité. C'est comme ça que les anciens appelaient Walata.
Walata est fondé, il y a plusieurs versions sur ça. Mais ce qui est exact, il est fondé au 6e siècle, en 530.
Sidi Mohamed Lemine est le représentant de la Fondation nationale pour la sauvegarde des villes anciennes.
Ses habitants étaient des Soninkés. Il y a des places jusqu'à présent, ils portent le nom des Soninkés. Tel par exemple Zerokoumoussa, c'est un nom Soninké. Tel par exemple la petite pierre, on l'appelle Gdmus.
Drapé dans sa dara bleue, le vêtement traditionnel maure, il nous entraîne dans les ruelles de la vieille ville, intarissable sur son riche passé.
Il y a Gdinke qui est là-bas, c'est la place où on monte quand il y a l'apparition de la lune.
De la lune, Charles.
Voilà, on l'appelle Gdink. Ce sont des noms solinqués qui existent jusqu'à présent. Ça, c'est la place publique où je vous ai dit, où les savants se réunissent après la prière de l'Asr, la prière de 16 heures. Ils se réunissent ici et ils commencent à lire sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Jusqu'à le crépuscule, ils retournent directement et partent pour la mosquée, pour la prière de l'Maghreb. C'est une ville religieuse.
Elle était sur la route des caravanes ?
Elle était sur la route des caravanes, exactement. Elle était sur la route des caravanes. À l'époque, les gens partent de Walata pour passer à Timbuktu. La distance, je crois, après vers les 400 km, pas plus. Les gens partent jusqu'à Timbuktu. Je ne sais pas, ils font combien de jours à l'époque. De là-bas, ils partent en Algérie ou bien de l'Algérie, ils partent en Libye et de la Libye en Égypte, puis ils continuent à la Mecque.
C'était donc un centre religieux, un centre d'érudition. Pourquoi les gens venaient à l'époque à Walata ?
Ils viennent pour apprendre la religion, pour apprendre la religion musulmane. Et ce n'est pas seulement les Maliens ni les Sénégalais, il y a les Mauritaniens, les grands savants mauritaniens. Il n'y a pas un grand savant. La majorité des grands savants mauritaniens qui existent actuellement en Mauritanie et qui sont décédés, ceux-ci ont tous passé par Walata.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette époque ?
Comment ?
Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cette époque ?
Bon, voilà, il ne reste rien.
Ce qui a été l'un des plus importants foyers de la culture islamique en Afrique, escale phare des grandes routes marchandes du désert, n'est plus aujourd'hui qu'une bourgade abandonnée aux assauts du temps et du sable qui inexorablement recouvre toute chose à Walata. Mais ce qui désole le plus Sidi Mohamed Lemine, c'est que les vestiges de ce passé si riche sont aujourd'hui en très grand danger, menacés de disparition.
Donc on avance vers la bibliothèque. Cette bibliothèque regroupe plus de 1000 manuscrits. Goule Sid Ahmed Jiji, ftahlou le maktab.
L'homme qu'il vient d'envoyer chercher s'appelle Sid Ahmed. C'est lui qui a les clés de la bibliothèque.
Ils sont là, extraordinaires. C'est une bibliothèque extraordinaire. Tous les manuscrits sont là. On a besoin seulement d'aide pour continuer à gérer ça, parce qu'avec le temps, cette année, avec la pluie, toute la bibliothèque est tombée. Et avec des moyens malheureusement limités, on a pu quand même reconstruire cette chambre seulement.
Vous avez besoin de quoi aujourd'hui ?
On a besoin de tout. On a besoin de faire cette bibliothèque. Vous avez vu, c'est devenu des ruines. C'est la seule chambre qui vaut quelque chose, c'est là où vous êtes. Le reste de la bibliothèque est tombé.
À cause des pluies ?
Des pluies. Et malheureusement, elle n'a pas de gérant. Moi, je ne suis pas ici. Moi, je travaille en Côte d'Ivoire. Je suis fils du quartier, je suis fils de la ville. Le propriétaire de la bibliothèque est mon grand-père. Cette bibliothèque, j'étais parmi les gens qui ont organisé cette bibliothèque dans les années 90. C'est-à-dire quand elle a été construite, j'étais là. Donc je connais, je l'ai gérée un certain temps. Aujourd'hui, je suis venu, j'ai trouvé la situation comme ça, elle était fermée. Et je suis venu, j'ai décidé moi-même d'ouvrir la bibliothèque pour tous les visiteurs, vu son état, pour que, Inch'Allah, on trouve quelque chose pour pouvoir aider.
La bibliothèque, ou plutôt ce qu'il en reste, se résume à une simple pièce, pas bien grande, et surtout tellement vétuste, alors que s'y entassent les caisses qui abritent le trésor de Walata, ces fameux manuscrits.
On a exposé des manuscrits qui datent depuis 600, 700 ans. Mais malheureusement, depuis qu'il y a eu la pluie et que la bibliothèque est tombée, on n'a pas encore pu récupérer tout. Ils sont là, mais on ne sait pas tellement. Le contenu est mélangé. Lui, il vous a dit 1000, moi je vous dis que c'est 1500 et quelques manuscrits. Ce qui est extraordinaire, parce qu'on a découvert ici en 90 un manuscrit traduit en poulard. Ce qui veut dire que cette ville, il y avait tout le monde ici. Il y avait des étudiants qui venaient de partout. C'était quelque chose d'extraordinaire pour tous les visiteurs, pour tous les chercheurs qui venaient ici. C'était une université pour tout le monde. Tout le monde venait étudier ici. C'était l'histoire, c'était le commerce, c'était tout. Walata était quelque chose.
Qu'est-ce qui est à l'origine du déclin de Walata ?
Comment vous expliquer ? C'est le temps, c'est le temps. C'est quelque chose qui arrive à l'Afrique tout entière, c'est pas Walata seulement. C'est un déclin qui est arrivé à toute l'Afrique. Je ne peux pas expliquer exactement la cause du déclin, mais ça y est là, il est devant vous. C'est une ville qui existe depuis des siècles. Elle a besoin d'être sauvée. J'espère que ça va aller. Je vais vous emmener encore au musée. Vous allez voir.
Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de visiteurs en ce moment.
Pas du tout. Depuis que la zone a été déclarée ronde rouge à cause du terrorisme, il n'y a même pas de visiteurs. Je ne sais pas si les choses vont changer. Il y avait un moment avant les années 90, jusqu'au l'an 2000, il y avait ici combien d'auberges ? On recevait combien d'étrangers ici ? C'était beaucoup. Cette bibliothèque était riche. On avait une caisse, on coupait les coupons de 500 guyas pour chaque visiteur. C'est-à-dire on gagnait de l'argent, de quoi faire réhabiliter la ville. Aujourd'hui, il n'y avait pas de visiteurs. Aujourd'hui, on ne peut même pas demander un sou à quelqu'un. On a besoin que les gens viennent voir ce tout. On n'a pas besoin d'argent. Je veux que vous venez, vous regardez vous-même, vous transmettez ce que vous avez. Notre problème, c'est que depuis qu'elle a été décrétée cette zone rouge, les visiteurs ne viennent plus. Le déclin a commencé par là.
Madame, monsieur, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Attentat manqué de justesse cette nuit dans l'est de la Mauritanie.
Un nouveau cas d'enlèvement dans le désert du Sahara. Trois humanitaires espagnols ont été emmenés de force par des hommes armés hier soir au nord de Nouakchott en Mauritanie.
Un attentat hier soir près de l'ambassade de France à Nouakchott.
Attentat suicide, enlèvement de touristes. La Mauritanie n'a pas été épargnée à la fin des années 2000 par le terrorisme. Son classement en zone rouge, formellement déconseillé aux voyageurs, a porté un coup fatal à cette destination très prisée des Européens depuis la fin des années 90. Et si un homme en sait quelque chose à Walata, c'est Moulay Ouldé.
Voilà mon auberge. Auberge de l'amitié, il est là. Et c'est moi que je suis le premier qui j'ai pris ici une auberge.
Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu touriste ?
Depuis 7 mois, 8 mois. On a un groupe d'Espagnols depuis 4 jours ou 5 jours qui sont fait un passage ici. Ils sont fait la journée ici avec moi. Ils sont partis à Tichit. Mais le problème de Walata, c'est une ville très loin de tout. Et moi, je n'ai que ce travail. Et j'ai des enfants. Sa maman, il est décédé. Et c'est moi qui gère la famille. Et si on n'a pas de rentrée, on ne peut pas vivre là. On a besoin de touristes. On a besoin de touristes parce que si on a les touristes, on n'a pas besoin de quelque chose.
Et pourquoi il n'y a plus de touristes ?
À Walata, ils disent que c'est un point rouge. C'est dangereux. Ce n'est pas vrai. Walata, c'est une place très magnifique et beaucoup de choses à voir. et tu peux circuler seul, tu n'as pas peur de quelque chose. C'est pas comme Ouakchou, c'est pas comme... C'est une ville très petite et tout le monde il connaît les gens. Mais tu trouves des gens seulement qui sont gâtés la ville avec les ponts rouges. Et ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai.
Le fait que toute la région soit en zone rouge avec risque terroriste, c'est ça qui a fait du mal à la ville.
Ah oui, c'est ça. C'est ça. Si on n'a pas de points rouges, le touriste il vient.
Vous pensez aujourd'hui que Ouallata est une ville sûre et il faut enlever cette histoire de zone rouge?
Ah bien sûr, bien sûr, je suis sûr. Je suis sûr que la sécurité, il y en a. Pas de problème.
La nuit tombe sur Ouallata. L'appel à la prière couvre peu à peu les cris insouciants autour du ballon que se disputent quelques jeunes. Les hommes s'interpellent sur le chemin de la mosquée. Les femmes pressent le pas. Ici, il n'y a pas de circulation. Le sable absorbe le bruit. Le temps est comme suspendu. Depuis 10 ans, la Mauritanie n'a enregistré aucune attaque terroriste sur son sol. Certaines régions, comme la Drar, sont même passées en zone orange et ne sont plus que déconseillées par le Quai d'Orsay. Ce n'est pas le cas de Ouallata, encore marqué rouge. Officier supérieur à la retraite, le colonel Sherwood Schrouf connaît très bien la région. C'est en partageant le thé qui rythme la journée de tous les Mauritaniens qu'il livre le fond de sa pensée.
Tant que cette insécurité dans le voisinage persiste, moi je déconseille, c'est un risque inutile. Une fois que vous êtes ici, chez nous, je pense que le risque est réduit, bien que risque zéro.
Mais les gens qui sont en Mauritanie, est-ce qu'un touriste peut venir de Nouakchott et venir dans cette région?
Absolument.
En toute
mais
sécurité.
On va en trouver. Mais là, écoutez, ils vont continuer à venir jusqu'au mois d'avril-mai. Ils viennent de Nouakchott, ils descendent dans Némat, ils remontent vers là et ils descendent vers Tichit. Tichit, c'est une autre vieille ville. Elle est à pratiquement 500 km au nord. De Tichit, ils remontent à Tidjigja. Tidjigja, ils remontent vers la Drar. Certains de la Drar remontent vers Ouadibou et ils prennent la route vers le Maroc. D'autres continuent leur circuit vers le Sénégal. Tout à fait.
Donc, on est en sécurité ici.
Je veux dire, on est à 250 km des frontières est.
Du Mali donc?
Du Mali. Écoutez, le Mali est là. Regardez.
Donc là, vous êtes en train de me dessiner une carte sur le sable.
C'est la Mauritanie. Ouais. Là, c'est l'intersection des trois frontières. Mali, Mauritanie, Algérie. Vers le nord. Et tout ça, c'est le Mali. Hein. Là, c'est le Mali. Et là, également, c'est le Mali, hein, par là, vers le sud. Vers l'est, c'est le Mali. Vers le sud, c'est le Mali. C'est le pays avec lequel on partage le maximum de frontières.
Combien de kilomètres?
Ah ben écoutez, facilement, de ce côté... De ce côté, c'est 600 km du sud. Et du nord, ça doit taper vers les 1000. Hein.
Et c'est une frontière absolument impossible à sécuriser.
Elle est plus poreuse du côté nord que du côté sud. Parce qu'au sud, au moins, c'est habité. Par contre, du côté nord, à un certain moment, c'était le vide total. Là, la Mauritanie actuellement, il y a des dispositifs plus au nord. Ça, c'est étanche, par là. Il n'y a rien à craindre. Au centre, ici, également, c'est sous contrôle, par là. Par contre, d'abord, il n'y a pas de population fixe, il n'y a personne. Ouais. Voilà.
Lorsqu'en 1996, l'UNESCO inscrit Ouallata et ses trois sœurs, Shingeti, Waddan et Tichit, au patrimoine mondial, elle célèbre aussi un joyau architectural parfaitement intégré à son environnement, le désert, et qui illustre 7 siècles de l'histoire de l'humanité.
Vous êtes dans une maison ou à la tienne?
Sidi Mohamed Lemine prend plaisir à jouer les guides dans sa propre maison.
La superficie d'une maison ou à la tienne, 33%, c'est la cour.
C'est un patio avec autour des chambres.
Oui, exactement. Donc pour la rentrée, il y a ce qu'on appelle que tout vous me donne là où vous êtes rentré. Après, il y a une succession de pièces ici. Ça, c'est la première chambre, elle s'appelle Koutou. Là, il n'y a pas de fenêtre pour la période de l'été, pour la fraîcheur. Là, c'est la deuxième chambre, on l'appelle Segve. Là, c'est un magasin, on l'appelle Mahzen. Là, c'est une autre chambre, on l'appelle Orbeni. Ici, on l'appelle Orbeni. Vous voyez les chauves-souris?
Oui.
Ce sont les chauves-souris. Hein. Ensuite, il y a un étage. On va sortir devant, vous allez voir l'étage. Si vous voulez, vous pouvez monter. Et s'il fait très chaud le soir, on vit ici sur cette terrasse.
Waouh!
C'est ça la composition d'une maison à la terre, vraiment.
Il y a combien de maisons qui sont classées au patrimoine?
Il y a 293 parcelles. 293 maisons. Mais parmi ces maisons, il y a des maisons qui sont habitées actuellement, vers les 70. Il y en a qui sont de ruines. Il y en a qui sont de terrains nus. Mais le total, c'est 293 classés sur la liste du patrimoine mondial. Maintenant, nous, la Fondation nationale pour la sauvegarde des villes anciennes, nous sommes en train de réhabiliter dans nos centres historiques tout ce qu'on peut réhabiliter.
L'ambiance est joyeuse ce matin dans les ruelles de la vieille ville où maçons et manœuvres chahutent avant de se mettre au travail. Alors, qu'est-ce que vous faites là?
On va mettre une couche sur les murs. Vous allez voir, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'amener les bousses de vache. Ensuite, on amène le banco. Ensuite, on va prendre de l'eau jusqu'à mélanger très bien ces bousses de vache. Après, on va mettre le banco rouge et on le mélange très bien. Puis, on commence à travailler.
Et vous mettez couvrir. Ça, vous couvrez...
On couvre les murs avec ça. Parce que Walata, c'est une ville rouge. Et là, l'aspect rouge, c'est pour cela. Donc, toutes les maisons walatiennes sont rouges. Là, c'est assuré.
Et vous réhabilitez ça avec les mêmes matériaux?
Toutes les matières premières existent ici. Il y a des bancos rouges, il y a des bancos verts, il y en a jaunes. Tout ça, ça existe ici. Les matières premières, on l'utilise. Et on utilise les maçons et les manœuvres locales.
C'est ensuite aux femmes que reviendra la charge de décorer les murs des maisons avec ces ornements géométriques si typiques de Walata. Une tradition héritée, dit-on, de l'Andalousie. Une preuve de plus du riche passé de l'ancienne cité caravanière. Mais comment préserver ce patrimoine? Sidi Mohamed Lemine a bien quelques idées.
On doit avoir des chantiers au col concernant l'habitation walatienne. Par exemple, on prend un terrain et on construit une maison à style ancien avec des maçons. On les fait apprendre ce style, on prend les manœuvres, comme ça on va renouveler notre vie.
C'est important en fait qu'il y ait cette transmission de savoir entre générations.
Transmission de savoir, malheureusement les gens ont presque disparu, ça reste un ou deux, et surtout la menuiserie. Vous voyez la porte qui est là-bas, là, son décor, il y a un seul qui connaît ce décor. Il est devenu un peu vieux, vers les 60 ans. S'il transmet ce savoir à ses enfants, aux générations futures walatiennes, on va essayer de conserver notre patrimoine. Nous sommes attachés à ce patrimoine. Et les walatiens sont tous attachés à leur patrimoine, bien sûr. L'essentiel, c'est de ne pas perdre ce savoir. Donc, si on aura les moyens pour faire des chantiers écoles, pour transmettre ce savoir à notre génération future, ça sera excellent.
Est-ce que vous avez besoin de touristes aujourd'hui?
Les touristes, quand ils viennent ici, il y a beaucoup d'aide. Premièrement, ils vont louer dans les auberges. Ensuite, ils vont prendre un guide dans la ville pour les orienter à des places, aux bibliothèques, etc., etc. On a la poterie, elle sera vendue. Les gens de la poterie, ils ont tous fermé. Vraiment, les touristes de Roro est très important, très, 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 très important.
Et à Walata, tout le monde en est convaincu. Si la zone est toujours classée rouge, la cité sort peu à peu de son isolement. Depuis le 16 décembre, un vol hebdomadaire relie Nouakchott à Nema, à moins de 3 heures de piste du rivage de l'éternité.
Victime collatérale de la lutte antiterroriste, Walata rêve de sortir de l'oubli. Un grand reportage de Mounia Daoudi, réalisation Pauline Leduc. Okay.